Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Cammeraygal de la nation Gurindjai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Je m'appelle Grégory Pless et j'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui pendant une heure d'émission en français. Avec Christophe Mallet, dans quelques minutes, on va faire un point complet sur l'actualité sportive. On échangera aussi aujourd'hui avec l'écrivain congolais Wilfried Nsonde. Il est venu tout récemment présenter l'un de ses derniers livres en Australie, un livre intitulé « Héliosphéra, fille des abysses », qui raconte l'histoire de deux planctons et d'un morceau de plastique. Mais dans l'immédiat, place à l'actualité, c'est l'heure du journal. À la une de l'actualité de ce jeudi 18 avril 2024, Marie Emmanuel, l'évêque victime d'une attaque terroriste dans son église et pendant l'un de ses prêches lundi soir, a pris la parole aujourd'hui et fait savoir qu'il pardonnait son geste à son agresseur. À Bondi Junction, une veillée à la bougie se tiendra ce soir au centre commercial Westfield pour rendre hommage aux 6 victimes de cette attaque. Et puis, à Bruxelles, le Conseil européen a adopté de nouvelles sanctions contre l'Iran, une décision qui intervient après l'offensive de Téhéran sur Israël au cours du week-end. Marie Emmanuel, c'est le nom de l'évêque d'une église orthodoxe assyrienne qui a été la cible lundi soir d'une attaque au couteau, une attaque qualifiée de terroriste par la police australienne. Il n'a été blessé au final que légèrement lors de cet assaut, il semble s'être remis. Et aujourd'hui, pour la première fois, il a pris la parole publiquement depuis cette agression. Il a fait savoir qu'il pardonnait son assaillant, tout comme d'ailleurs son ou ses potentiels commanditaires. Je vous propose d'écouter un extrait du message audio qu'il a publié ce matin sur le site de son église.
I forgive whoever has done this act. And I say to him, you're my son, I love you, and I will always pray for you. And whoever sent you to do this, I forgive them as well. In Jesus' mighty name. I have nothing in my heart but love for everyone. Whether that person is a Christian or not, that's totally beside the point. The Lord Jesus always taught us to love one another.
Et le centre commercial Westfield à Bondi Junction rouvre ses portes aujourd'hui au public, mais seulement dans le cadre d'un hommage aux 6 victimes de l'attaque au couteau perpétrée samedi par un homme atteint de troubles psychiatriques. Une veillée à la bougie est ainsi prévue à 17h30 aujourd'hui. Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, appelle la population à se rassembler pour ce moment de deuil collectif.
We encourage members of the public to come along to that vigil, perhaps not to bring flowers, but to bring a candle, to show some community solidarity and send a massive message to the 6 families who've lost loved ones that we're thinking of them, we care for them and we want them to get through this together.
Et après l'avoir offerte au jeune Français qui s'est opposé à l'assaillant samedi dernier, le gouvernement a annoncé qu'un vigile blessé pendant l'attaque pourra lui aussi obtenir, s'il le souhaite, la résidence permanente. À Canberra, Richard Marles a présenté hier sa stratégie nationale de défense, un document qui fixe le cap et les ambitions des forces armées australiennes pour la décennie à venir. Il a ainsi annoncé plus de 50 milliards de dollars de dépenses supplémentaires au cours des 10 prochaines années, ce qui devrait porter d'ici à 2034 le budget australien de la défense à 2,4% du PIB. L'idée, c'est de renforcer les capacités militaires de l'Australie suffisamment pour contrer l'influence grandissante de la Chine dans la région Indo-Pacifique, mais aussi à se prémunir de toute forme de coercition. C'est l'idée qui sous-tend ce projet, comme l'a souligné donc Richard Marles, le ministre de la Défense.
In our region, what we are witnessing is the biggest conventional military build-up that we've seen since the end of the Second World War, and that is China, which is undertaking that. That's an inescapable fact. And that is changing the strategic landscape, not just for Australia, but for all the countries of the region and indeed the world.
Et malgré un contexte géopolitique tendu, Richard Marles a ajouté que la perspective d'une invasion de l'Australie était peu probable. Il a toutefois précisé à ce sujet qu'elle était peu probable car pas nécessaire. En effet, un ennemi pourrait parfaitement causer des dommages aussi lourds qu'une invasion terrestre en perturbant par exemple les voies commerciales empruntées par les navires australiens. Pour donner un exemple, les réserves de carburant de l'Australie, si elles étaient interrompues, ne lui permettraient de tenir que 24 jours. En Europe, un nouveau train de sanctions adopté contre l'Iran. Après l'offensive menée par Téhéran contre Israël au cours du week-end, le Conseil européen a effectivement annoncé hier de nouvelles sanctions, des sanctions ciblant notamment la production de missiles et de drones. Les dirigeants européens étaient réunis à Bruxelles théoriquement pour parler d'économie, mais ce sujet s'est donc invité dans la conversation. Décryptage par l'envoyé spécial de RFI à Bruxelles, Julien Chavanne.
L'idée était dans l'air dès les premières heures de la riposte iranienne. Elle est en train de prendre forme. Dans la foulée des États-Unis, l'Union européenne prépare un nouveau train de sanctions contre l'Iran. À leur arrivée ici à Bruxelles, les dirigeants des 27 qui ont parlé à la presse étaient tous sur la même ligne. Alexandre De Croo est le Premier ministre de la Belgique.
On va chercher à prendre des sanctions. De mon point de vue, sanctionner le régime des gardiens de la Révolution, c'est quelque chose que la Belgique va soutenir. Je pense que c'est un signal important à envoyer.
Des personnalités du régime seront visées, mais aussi ceux qui aident à faire des missiles, des drones qui ont été utilisés lors de l'attaque, d'après le président français Emmanuel Macron. Dans le même temps, les Européens veulent faire baisser les tensions dans la région avec un maître mot, désescalade, à l'image du Premier ministre irlandais Simon Harris.
Je pense que la position de l'UE est claire. On doit se concentrer sur une désescalade. Toutes les parties engagées doivent faire preuve de retenue parce que s'il n'y a pas de désescalade ni de retenue, ce serait alors une catastrophe.
Encore faut-il avoir les moyens de peser sur Israël ou sur l'Iran. Jusqu'à présent, Benjamin Netanyahou a ignoré les appels au cessez-le-feu à Gaza des Européens et Téhéran a toujours su contourner les sanctions de l'UE. Julien Chavanne, Bruxelles, RFI.
En Chine, l'employé d'un constructeur automobile a été licencié pour avoir acheté une voiture électrique chez un concurrent. En l'occurrence, il avait porté son dévolu sur le modèle produit par la marque Xiaomi, la dernière à faire son entrée sur ce marché devenu hyper concurrentiel des voitures électriques en Chine. Et précision de Stéphane Lagarde pour RFI.
La vidéo publiée le 15 avril dernier sur TikTok a fait le buzz, comme lors des interrogatoires de police. On y voit un individu de dos portant des feuilles A4 avec notamment la mention SU7, le nom du dernier modèle de Xiaomi, le géant chinois de la téléphonie qui a rejoint récemment la longue liste des plus de 200 constructeurs de voitures électriques que compte la Chine. Le blogueur en question dit d'ailleurs avoir travaillé pour l'un d'eux, JUE Motors, une entreprise, dit-il, qui ne marche plus très fort, avant de préciser dans un autre clip qu'il a été licencié sans raison 5 jours après s'être acheté un SU7. Partagé, liké, cette histoire a suscité une avalanche de commentaires sur les réseaux. Ce mercredi, JUE Motors a répondu dans un communiqué que le blogueur en question était surtout un ancien responsable des relations publiques du groupe et qu'il avait été licencié non pas pour avoir acheté la voiture du concurrent, mais pour en avoir fait la publicité et qu'il avait récemment brillé par ses absences au travail. Une histoire qui a réveillé aussi de nombreuses critiques contre la clause de non-concurrence imposée aux salariés de nombreuses entreprises en Chine, notamment dans le secteur du e-commerce, la clause empêchant les employés de travailler pour la concurrence, même après avoir quitté leur emploi. Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
Après des pannes et des incidents à répétition qui ont sérieusement entamé la réputation de l'avionneur américain Boeing, l'entreprise est de nouveau confrontée à des accusations graves. Elles viennent cette fois-ci d'un ingénieur qui travaille pour Boeing depuis plus de 40 ans. Il a témoigné devant le Congrès américain et affirmé qu'il avait été menacé physiquement par des cadres après avoir signalé de graves problèmes de sécurité sur deux des plus gros modèles produits par Boeing, le 777 et le 787. Écoutez Sam Salépour, c'est donc l'ingénieur qui a fait ces révélations.
I literally saw people jumping on the pieces of the airplane to get them to align. I call it the Tarzan effect, among other improper methods. Again, I raised concerns internally. I was sidelined. I was told to shut up. I received physical threats. My boss said, I would have killed someone who said what you said in a meeting.
Et précisons que Boeing, pour sa part, a démenti fermement ces accusations, tout en refusant de témoigner devant le Congrès américain. Direction maintenant la France, puisque à 100 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, les autorités françaises sont accusées par certains de faire du nettoyage social. C'est en tout cas la question que posent certains après l'expulsion hier des occupants du plus grand squat de la région parisienne. 450 personnes ont ainsi été délogées dans le calme hier matin. Ils occupaient depuis 3 ans un ancien immeuble de bureau situé à Vitry-sur-Seine. Le reportage de Marie Casadebé pour Radio France Internationale.
Descartes quitte les lieux au compte-gouttes. Celui-ci prend la direction de Bordeaux. Beaucoup d'occupants se sont ainsi vus proposer un hébergement dans un SAS régional. 3 semaines, le temps de l'examen de leur situation. Un petit groupe de réfugiés érythréens sort à pied. Ils viennent de refuser de quitter Paris. Une fillette pousse son petit vélo. Sa mère et sa tante traînent des valises. Elles vivaient ici depuis 3 ans. Ils m'ont dit d'aller à Bordeaux, mais moi je travaille ici. Moi, je suis une formation. Il faudrait que j'arrête l'école pour aller dans un endroit que je ne connais même pas. Je suis déprimée, je ne sais pas ce que je vais faire, où je vais aller. À côté d'elle, sa fille de 6 ans ne réalise pas.
Tu sais où est-ce que tu vas dormir ce soir ?
Dans une nouvelle maison.
Sa mère éclate en sanglots. Selon une association présente lors de l'expulsion, les hébergements parisiens sont réservés aux personnes qui ont un contrat de travail d'au moins 6 mois. Pour d'autres, comme pour cet Ivoirien et sa fille, ce sera l'hôtel pour quelques nuits peut-être.
Dieu merci, on est allogés là-bas.
J'ai eu un petit peu peur. Moi, je vais à l'école, je ne veux pas rester dans la rue comme ça. Et ce squat, ça me manque, hein. On joue bien dans ce squat.
Aucun délai n'a été précisé à son père, mais il repart rassuré, il ne dormira pas dehors avec sa fille.
Et toujours sur le même sujet, hier, Île-de-France Mobilité, l'autorité en charge des transports en région parisienne, a lancé son forfait spécial JO destiné principalement aux touristes et aux spectateurs. Alors comment ça marche ? On fait le point avec Victor Castamarino pour RFI.
16 euros par jour pour se déplacer en illimité dans Paris et en Île-de-France, y compris vers les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle. Les touristes et spectateurs des JO peuvent dès à présent commander en ligne le Pass Paris 2024. Il sera valable du 20 juillet au 8 septembre prochain. Le tarif sera dégressif, un pass 7 jours coûtera ainsi 70 euros. Pour le ticket à l'unité, il faudra compter 4 euros contre 2,10 euros actuellement, comme annoncé il y a quelques mois par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Une hausse des tarifs justifiée selon elle par l'augmentation de la fréquence des lignes durant les Jeux, mais aussi pour inciter les Français à anticiper et éviter les files d'attente interminables au guichet. Le prix des abonnements pour les habitants de Paris et de sa région, eux, resteront inchangés.
Et on jette maintenant un œil à la météo de ce jeudi en Australie. Soleil et 32 degrés à Perth, 19 degrés à Adélaïde où le temps en revanche est nuageux, 17 degrés et quelques averses attendues aujourd'hui à Melbourne, idem à Sydney où il fera jusqu'à 24 degrés aujourd'hui, 28 degrés attendus à Brisbane et jusqu'à 34 à Darwin où le temps sera également à l'orage aujourd'hui. «
Journal des sports, et on commence avec du football et la Ligue des Champions, la qualification du Paris Saint-Germain après une victoire à Barcelone, donc contre le Barça 4-1. Je vous rappelle qu'au match aller, le Paris Saint-Germain avait perdu à Paris sur le score de 3-2. Ça donne un score final en 6-4 donc pour les Parisiens sur le compte des deux matchs. Mais très belle victoire donc du PSG 4-1. On écoute Kylian Mbappé pour le Paris Saint-Germain.
C'est quelque chose de spécial, moi qui ai grandi ici, donc c'est sûr que vivre des soirées comme ça en tant que Parisien, c'est grand. Je suis toujours fier d'être Parisien. Maintenant, c'est sûr que dans des soirées comme ça, la fierté, elle est encore plus grande. Félicitations au groupe. On a préparé le match pendant 6 jours avec l'idée qu'on allait gagner. Et voilà, on continue tous ensemble vers les demi-finales.
Voilà, donc Kylian Mbappé, le capitaine du Paris Saint-Germain. Le club parisien rencontrera, à la grande surprise de tout le monde, le Borussia Dortmund au prochain tour. L'Atlético avait battu les Allemands sur le score de 2-1 au match aller. Et au match retour, eh bien Dortmund a pulvérisé l'Atlético sur le score de 4-2. Donc au total, 5-4 pour les Allemands. Ce sera donc l'adversaire du Paris Saint-Germain, comme nous l'explique Victor Missisrano.
Dortmund a éliminé l'Atlético Madrid. Madrid, battu à l'aller, le Borussia devait rattraper son handicap d'un but. Victoire 4-2 dans une ambiance effervescente. Il y avait deux partout à 20 minutes du terme, moment où Füllkrug puis Sabitzer, buteur coup sur coup, ont offert la qualification à Dortmund. Écoutez la joie d'Edin Terzic, l'entraîneur du Borussia.
Je suis incroyablement heureux, incroyablement satisfait et très fier pour l'équipe et le club. L'atmosphère dans le stade était extraordinaire. Il y a eu deux moments qui nous ont fait mal, qui nous ont fait penser que le match se jouerait dans l'autre sens. Mais nous n'avons jamais perdu la foi. Nous avons continué à croire en ce qui fait notre force. Si on regarde, si on analyse, on peut dire que c'est l'équipe qui le mérite, qui arrive en demi-finale. Et cela en dit déjà long de pouvoir dire que nous méritions d'éliminer l'Atlético Madrid.
Donc voilà donc pour ce match qui aura lieu dans 15 jours, donc Dortmund, match aller à Dortmund dans 15 jours contre le Paris Saint-Germain. Dans l'autre demi-finale verra le Bayern de Munich affronter le Real Madrid. Real Madrid qui a sorti au pénalty Manchester City. Un match incroyable de tension, mais voilà, les Madrilènes ont été plus forts et ils seront donc opposés au Bayern Munich qui lui s'est défait d'Arsenal. Il n'y a donc pas de club anglais dans les demi-finales. C'est assez rare pour le souligner, pas de club anglais dans les demi-finales de cette Champions League. Allez, on parle de cyclisme. Hier, vous l'avez peut-être suivi à l'antenne de SBS, c'était la Flèche Wallonne. Victoire chez les hommes du Britannique Stevie Williams. Vous le connaissez peut-être puisqu'il a gagné le Tour Down Under. Très belle victoire donc de Steven Williams de l'équipe Israël. Première tech chez les hommes, et chez les femmes, c'est Katia Niewiadoma, la Polonaise qu'on connaît beaucoup pour ses podiums. Hein. Depuis 4 ans, elle n'avait pas gagné, 1770 jours sans victoire professionnelle. Pourtant, elle a fait 53 top 5 dans cette même période. Donc, elle était toujours là hein, sur les podiums ou très près du podium dans les courses et les à chaque finale donc de course principale. Mais elle n'avait pas gagné depuis 4 ans. C'est chose réglée dans cette Flèche Wallonne et elle est plutôt contente. On l'écoute.
It means a lot. I really hope that with that victory, I inspired a lot of people who are pursuing their dreams for so long, because I've experienced a lot of failures, a lot of second, third places, so I never stopped believing that as a team we can win another race, so I do really hope that that race will inspire a lot of people to just keep believing, keep pursuing their dreams, because their reward is always there waiting for us. The race was super brutal because as we started, it started to rain so hard and temperature dropped very low. But deep inside, I knew that this is my day. Somehow, I just felt it. And to be honest, the weather conditions were kind of on my side because I always benefit from hard races like this. So as a team, we just like kept positive atmosphere, even though we were all shaking from the cold temperature. Everyone was there for each other, and my teammates were amazing, taking care of me, bringing me warm clothes so I could change and just remain focused on the final.
Katia Niewiadoma, donc, avec cette victoire dans la Flèche Wallonne. Tout le monde se retrouvera ce week-end chez les hommes et chez les femmes pour la dernière classique de la saison, Liège-Bastogne-Liège. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans le reste du programme dans quelques instants. À tout de suite.
13h et presque 44 minutes, vous êtes sur SBS, c'est l'émission en français. Et pour la dernière partie de cette heure passée ensemble, on va maintenant parler de nature et plus précisément de ceux qui œuvrent à sa régénération. C'est notamment le cas de l'entreprise Lord of the Trees. Marianne Murat s'est entretenue avec son directeur, Émeric Maudou.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous sommes en ligne avec Émeric Maudou, directeur général et fondateur de Lord of the Trees, une entreprise de restauration d'écosystèmes. Émeric, bonjour.
Oui, bonjour Marianne.
Alors, pour simplifier ce que votre entreprise fait, vous agglomérez plusieurs technologies pour renforcer tout simplement la protection de l'environnement, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Nous avons commencé la compagnie il y a... On arrive sur les 5 ans de ça. On est basé à Sydney, on opère globalement. Et en fait, comme vous disiez, c'est un amalgame de plusieurs technologies, dont la robotique, les drones et l'intelligence artificielle pour aider à faire de la réforestation ou alors de la protection de l'environnement en utilisant la technologie pour le bien de la planète.
L'intelligence artificielle, les drones, les robots, tout ce dont vous venez de parler, on est à une époque où ça se développe énormément, on parle quasiment que de ça, mais ça fait encore peur, ces polémiques, il y en a qui sont absolument contre. Comment vous faites pour utiliser ces outils, ces technologies à bon escient et surtout, quel est l'accueil ici en Australie?
Pour mettre un petit peu ce qu'on fait dans le contexte de nos opérations, si on considère donc, comme on a dit, les drones, les robotiques et l'intelligence artificielle comme étant ce qu'on appelle ici la high-tech, on travaille en symbiose avec ce qu'on appelle aussi low-tech. L-O-T-E-K, c'est un principe qui veut dire local, traditional, ecological knowledge, donc la connaissance du milieu et des pratiques par les populations locales, notamment les populations indigènes et aborigènes avec lesquelles on travaille. Donc, c'est pas juste de la robotique, de l'intelligence artificielle. Nous, la politique en fait qu'on a à Lord of the Trees, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle et les drones et la robotique pour le bien. Donc, on fait partie de deux associations, AI for Good, et une autre association s'appelle Drones for Good. En fait, c'est une charte dans laquelle on s'engage, nous, à utiliser justement les drones et l'intelligence artificielle pour faire du bien et non pas créer des choses qui pourraient nuire à la population ou aux animaux.
Très concrètement, pour que nos auditeurs comprennent bien, donc vous parlez de protection de l'environnement, vous parlez de reforestation, vous parlez de restauration d'écosystèmes. Comment elle fonctionne, votre entreprise, qu'on comprenne bien?
On facilite un service pour une entreprise ou un particulier qui a une grosse propriété ou un gros terrain et qui veut planter des arbres. Donc, soit restaurer un écosystème qui a été dégradé. Donc là, il y a les trois scénarios sur lesquels on se trouve actuellement. C'est une coupe de forêt qui a été faite illégalement. Donc, on a ce genre de problème beaucoup plus en Asie du Sud-Est. On travaille aussi énormément avec les gouvernements après qu'il y ait un feu. On en a fait l'expérience douloureuse ici à côté de Sydney il y a 4 ans de ça, avec des feux qui ont duré plus de 6 mois. Et le dernier, c'est quand les terrains ont été endommagés sévèrement. On est prêt à intervenir après ce genre d'événement, mais on n'a pas encore fait. Par contre, on a plus d'expérience avec les compagnies minières. Donc, quand une compagnie minière a fini son contrat, elle doit redonner la terre, en fait, aux peuples indigènes ou aux peuples premiers ici en Australie à qui ça appartient. Et sont obligés par la réglementation de rendre la terre comme ils l'ont trouvée. Bon, on sait très bien qu'une fois que la mine est fermée, l'environnement est complètement différent de quand ça a commencé. Donc, en fait, on travaille énormément avec ces boîtes pour essayer de remettre en place, on va dire, l'écosystème sain qui se rapproche le plus à ce qu'il était avant qu'il ait été endommagé. Je vous explique un petit peu comment on travaille. Donc, c'est un processus de 4 étapes. L'étape numéro 1, on fait l'analyse du paysage. Donc, c'est là où on envoie les drones. C'est là où on récupère toutes les informations sur la topologie et tout ce qui a à voir au niveau géographique, au niveau du climatique et au niveau des sols. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, une fois qu'on a toutes ces données, on regarde au paysage qu'on essaye soit de recréer ou de protéger avec les espaces qui sont adjoignants à la zone dont on essaie de s'occuper. Donc, si dans le cas d'une mine, par exemple, on regarde aux forêts qui étaient là avant, les espèces qui ont été répertoriées, les espèces qui sont avoisinantes, et on va regarder, maintenant que le paysage a été, on va dire, déformé, quelles sont les espèces qui vont pousser ou qui seront plus adaptés à pousser dans ce nouvel environnement. Et une fois qu'on a tout ça, en fait, on fait un amalgame des deux, on développe un plan qui va nous dire, bon, mais ces espèces-là vont plus être adaptées dans cette partie du terrain, et cette autre espèce, ces autres parties d'espèces vont être dans une partie différente. Et de là, on contacte les communautés indigènes, donc les peuples premiers en Australie qui vivent dans ces terres, et on leur demande, on leur dit, bon, mais voilà les espèces qu'on a identifiées. Est-ce qu'il y a d'autres espèces auxquelles on n'a pas pensé? La dernière chose qu'on veut, c'est introduire une espèce qui ne fait pas partie du landscape et qui pourrait devenir invasive. On a un partenariat avec une organisation basée en Suisse qui s'appelle Restore, un laboratoire de recherche, qui est un petit peu, on va dire, l'équivalent du Google pour tous les écosystèmes dans le monde. Et on fait en fait une validation de la sélection des plantes pour ce terrain particulier. Une fois qu'on a le feu vert de Restore en Suisse, plus le feu vert après du gouvernement, du ministère de l'Agriculture et des Forêts, c'est là où on prend contact avec les peuples aborigènes, les peuples premiers en premier, pour essayer de les impliquer dans la collection de graines endémiques. Donc ça, c'est pour les aider en fait et leur donner du travail. Et tout le reste, on fait partie en fait d'un groupe où on a accès à des banques de graines qui sont situées dans le monde entier, où dans lesquelles on arrive à avoir le reste des graines en fait qu'il nous faut. Donc en Australie, on travaille énormément avec les peuples premiers pour nous aider à préparer le sol. On évite en fait de remuer la terre parce qu'il y a un écosystème incroyable au niveau des bactéries et donc on emploie les peuples premiers pour nous aider à s'occuper des herbes. Alors, on a une association avec une organisation très particulière ici en Australie qui s'appelle Firestick Alliance, une organisation de peuples premiers qui font ce qui s'appelle le cold burning du landscape. Donc, ils nous aident en fait à préparer les terrains en brûlant à une période très particulière les mauvaises herbes afin que nous puissions faire la plantation. Donc ça, c'est l'étape numéro 3. Et l'étape numéro 4, c'est tout ce qui est la surveillance en fait, des forêts une fois qu'on a planté pendant les 25 ou les 30 prochaines années.
Et ça fonctionne? C'est quoi vos premiers résultats?
On a une forêt test qui se trouve dans une petite ville qui s'appelle Dowerin, qui est à 250 km à l'est de Perth, et qui ne reçoit que 30 millilitres d'eau, enfin de pluie par an. Donc c'est un climat qui est considéré semi-aride. Les plantations qu'on a fait là-bas ont des résultats qui sont de plus de 75% de germination. Donc quand on extrapole en fait ces résultats dans des zones, plus on se rapproche de l'équateur, plus il y a de la pluie, on a des résultats qui sont au-delà de 80%, voire 85% quand on travaille avec des espèces tropicales.
Votre entreprise travaille bien au-delà de l'Australie. Vous avez des projets à travers le monde et vous ne faites pas que de la plantation de nouvelles graines. Quelle est l'étendue des missions de votre entreprise?
On est global, on est basé à Sydney. Nos ingénieurs sont basés en Suisse. Au niveau des projets, on fait peut-être 50-50. Donc 50%, c'est vraiment de la restauration, on va dire pure et dure, des seed pods avec les drones. Le reste du travail qu'on fait, c'est de la protection environnementale dans des milieux qui sont, on va dire, soit difficiles d'accès. Donc, je vous donne un exemple. On a un projet en ce moment dans les Philippines avec un peuple indigène qui a identifié, il y a des arbres qui ont été coupés illégalement. Ils vivent dans une forêt qui est tellement grande, ils n'ont pas les moyens de faire la surveillance de toute la forêt. Donc, on met en place des systèmes qui nous permettent de regarder l'état de la forêt semaine par semaine à exactement la même heure. On travaille à ce moment-là avec des satellites. On a des projets qui ont à voir aussi avec des populations animales qui sont en danger. Donc, le projet sur lequel on est en train de bosser en ce moment est à Bornéo avec une organisation qui s'appelle OURF. La capitale Jakarta est en train d'être bougée de là où elle est pour se retrouver en plein milieu d'une forêt, de la forêt tropicale, pardon, où vivent les orang-outans. Et donc, on travaille avec OURF pour vraiment comprendre comment les populations locales d'orang-outans qui vivent dans ces forêts sont en train de se déplacer. Là, à ce moment-là, on travaille avec des drones qui sont équipés de caméras thermiques qui permettent d'identifier dans la canopée où se trouvent ces populations d'orang-outans et comment ils se déplacent dès que les engins arrivent pour couper la forêt. On a des projets ici en Australie, à côté de Byron Bay, avec des koalas. Et on travaille aussi au Vanuatu pour aider des peuples premiers, pareil, à protéger leurs mangroves. Voilà. Donc, c'est un petit peu tout. On fait, comme je vous disais, 50% de la plantation et puis après 50%, on travaille vraiment dans l'environnement pour la protection et la sauvegarde de la biodiversité.
On est à une époque aujourd'hui où on peut avoir l'impression qu'on a atteint un point de non-retour dans la crise environnementale. Est-ce que si on vous écoute bien, si on lit entre les lignes de ce que vous nous dites, on peut avoir cette impression qu'en fait le point de non-retour n'a pas été atteint et que la reforestation, par exemple, c'est pas un projet trop ambitieux?
C'est une bonne question. En fait, moi, depuis que je suis tout petit, je suis l'optimiste éternel. Donc, le verre est toujours rempli, il y a toujours l'eau dans le verre. Et il y a quelques années, il y a le Washington Post qui avait publié les résultats d'une étude. Il y avait 1,52 trillion d'hectares de terrain, en fait, qui sont déforestés. Donc, c'est-à-dire, c'est notre opportunité. C'est le marché, on va dire, sur lequel nous, on opère. Un hectare, c'est la taille d'un terrain de football. Cette masse, en fait, sur laquelle on peut planter des arbres aujourd'hui, c'est l'équivalent des États-Unis et de la Chine ensemble. Il y a de l'espace pour planter des arbres. Est-ce qu'on a atteint le point de retour? Moi, je suis persuadé que non. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec la nature et en fait, la nature est extrêmement résiliente. Et je pense que si on fait tous des efforts, on arrivera justement à faire des améliorements dans la biodiversité et notamment dans les forêts. Il y a une cascade en fait de conséquences à faire le travail qu'on fait, notamment au niveau de améliorer la qualité de l'air, améliorer la qualité de l'eau, protéger justement les ressources ancestrales des peuples premiers avec lesquels on travaille, entre autres.
Et pour cela, vous estimez que les nouvelles technologies, la robotique, l'intelligence artificielle, c'est essentiel? Vous pensez que vous pourriez faire ce même métier aujourd'hui sans toutes ces technologies?
Ça serait possible, mais ça voudrait dire qu'il faudrait retourner à planter des petits arbres qu'on a fait pousser dans une nursery et les planter à la main. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est le développement de ces technologies, de la robotique, de l'intelligence artificielle, font que on a moyen justement d'accélérer le processus traditionnel de la foresterie traditionnelle.
Merci beaucoup, Aymeric. Aymeric Modou, je le rappelle, vous êtes le CEO et fondateur de Lord of the Trees, une entreprise de restauration d'écosystèmes à l'aide de nouvelles technologies. Merci, Aymeric.
Merci beaucoup. Merci à vos éditeurs.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Tu es grand et si différent que j'en tremble, que j'en frissonne. Grand, rien n'est comme avant dans ma peau de daronne.
Je te vois mal. SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte tout en douceur sur ce morceau de la chanteuse Jill Kaplan, un morceau qui s'appelle Daronne. Notre prochain rendez-vous sur les ondes, ce sera samedi à 13h précise. En attendant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne SBS French sur votre appli audio préférée. Vous y retrouverez toutes nos interviews, tous nos reportages et toutes nos émissions. passez un excellent après-midi et à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.